magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, merci d'être des nôtres ce dimanche. Voici le sommaire du magazine des Nations Unies. Une délégation du Conseil de sécurité dans nos murs depuis vendredi dernier. Nous vous donnerons l'objectif de cette mission onusienne dans cette édition. Nous évoquerons aussi la conférence des commandants de brigades et de secteurs de la MONUSCO tenue à Kinshasa du 2 au 3 octobre dernier. La sécurité dans l'Est de la RDC également à la une. Le commandant des forces de la MONUSCO donne les grandes lignes des actions menées par la MONUSCO aux côtés de l'armée congolaise pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Le général Carlos Alberto dos Santos Cruz est l'invité du magazine des Nations Unies. La Banque mondiale investit 10 millions de dollars américains dans la lutte contre le phénomène enfant de la rue à Kinshasa dans le cadre du projet EDR. Dans cette émission, Maurice Yatovo de la Banque mondiale RDC va nous expliquer en quoi consiste ce projet.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Les 15 membres du Conseil de sécurité effectuent depuis vendredi dernier une visite dans la région des Grands Lacs. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est arrivée à Kinshasa. Elle se rendra aussi au Rwanda, en Ouganda et en Éthiopie. Pascal Masirika.
L'un des objectifs de cette visite est de renouveler le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU pour la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Ici à Kinshasa, cette délégation va rencontrer les hauts responsables du gouvernement congolais, dont le président Joseph Kabila. Le dimanche, les membres du Conseil de sécurité se rendront à Goma, au Nord Kivu, où ils vont échanger avec des représentants de la société civile avant de visiter un camp des personnes déplacées. De Goma, ils feront le voyage de Kigali où leur agenda prévoit une rencontre avec le président rwandais Paul Kagame. Ils iront ensuite à Entebbe pour un autre entretien avec le président ougandais Yoweri Museveni Kaguta. La dernière étape de cette visite conduira cette délégation à Addis Abeba où sont prévues des rencontres avec les autorités éthiopiennes et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
La semaine qui s'achève reste dominée entre autres par la conférence des commandants de brigade, des secteurs et des contingents de la MONUSCO ici à Kinshasa du 2 au 3 octobre et c'était sur invitation du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Martin Kobler. Quel était l'objet de cette rencontre? La réponse dans ce condensé de Jean-Pierre Elali Coco.
Ils sont venus de toutes les provinces de la RDC. Les commandants de brigades et des secteurs ainsi que le chef des contingents de la MONUSCO se sont imprégnés des directives du représentant spécial dans la mise en œuvre du nouveau mandat de la MONUSCO édicté par la résolution 2098. Écoutez à ce sujet le colonel Diop Senissisi, commandant du secteur 2 qui comprend les Maniema et les districts de la Tchopo et du Bas-Ouélé en province orientale.
L'objet de cette conférence qui a réuni aujourd'hui le commandant de la force, les commandants de brigade et les commandants de secteur, c'est une occasion que le commandant de la force exploite pour regrouper tous ses top managers, comme je peux le dire.
C'est-à-dire en français
tous les grands commandements. Et c'est l'occasion à notre niveau responsable des secteurs et des brigades de rendre compte du niveau d'exécution de ces directives. Et c'est également, durant cette conférence, l'occasion, après exposer ce que nous avons fait, de recueillir également de nouvelles directives, de nouvelles orientations de notre chef.
Chacun explique ses tâches quotidiennes menées sur le terrain pour le rétablissement de la paix, les difficultés rencontrées et les stratégies pour trouver des solutions. C'est le cas du général Jim Mwaki Bolwa, commandant de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Ses propos sont traduits par le colonel Félix Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO.
De manière quotidienne, je suis la situation, de manière dont elle se développe. Et ensuite, je mène mes activités conformément aux instructions que je reçois de mes chefs. Donc, de manière quotidienne, on s'assoit dans mon état-major et nous recevons les rapports concernant la sécurité, la situation sécuritaire dans la région. Ensuite, nous conduisons nos activités routinières quotidiennes.
Les casques bleus ne travaillent pas seuls sur les terrains. Ils appuient les opérations des FARDC sur le plan matériel et logistique. Le général Anissour, commandant de la brigade de l'Ituri, salue les niveaux de coopération de FARDC dans ce propos traduit encore de l'anglais par le colonel Félix Bassé.
Vous savez que les FARDC sont nos partenaires sécuritaires et nous travaillons ensemble. Nous leur apportons aussi tout notre soutien dans leurs opérations unilatérales et souvent aussi nous travaillons ensemble en menant des patrouilles conjointes, mais aussi nous participons à renforcer leurs capacités opérationnelles en menant des formations, des entraînements et bien aussi nous continuons toujours à partager le renseignement et l'information juste pour vous dire que nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec les FARDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La Banque mondiale dans la lutte contre le phénomène communément appelé à Kinshasa Chégué ou enfant de la rue. Elle a mobilisé un financement de 10 millions de dollars américains dans le projet Enfants dits de la rue, EDR, grâce auquel quelques enfants victimes de ce phénomène sont pris en charge dans des centres d'encadrement avant leur éventuelle réunification familiale. Maurizia Tovo, spécialiste en développement social au bureau de la Banque mondiale à Kinshasa, est le chef de ce projet. Elle répond aux questions de Rémi Singekalala dans cet entretien.
Madame Maurizia Tovo, bonjour.
Bonjour.
En quoi consiste le projet EDR, enfants dits de la rue?
C'est un projet qui veut s'attaquer à la problématique des enfants de la rue, qu'on voit de plus en plus nombreux dans les rues des grandes villes du pays, mais en particulier à Kinshasa. On en a répertorié 40 000 dans le pays et 14 000 à Kinshasa seulement. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose en accord avec le ministère des Affaires sociales et on a donc élaboré ce projet. C'est un projet qui a trois composantes. La composante sur laquelle on veut mettre surtout l'accent, c'est la composante de prévention, parce que c'est à travers la prévention qu'on peut finalement arriver à estomper le flux d'enfants qui arrivent dans la rue tous les jours. Bien sûr, il faut quand même faire de l'assistance, parce qu'il y a des enfants qui sont maintenant dans la rue qu'il faut aider. Et puis, il y a une troisième composante, qui est une composante pour la gestion du projet, son évaluation, son suivi, et aussi sur le renforcement des capacités. On veut que le ministère des Affaires sociales, à terme, soit lui capable de s'attaquer à ce phénomène de manière efficace.
Quelle est la hauteur du financement de la Banque mondiale dans ce projet?
C'est un projet de 10 millions de dollars. Donc, pour notre portefeuille en RDC, c'est un projet qui est considéré petit. Ceci étant dit, c'est un projet qui est seulement pour la ville de Kinshasa, hormis quelques activités de renforcement de capacités ou de communication médiatique. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que c'est le premier projet dans l'histoire de la Banque mondiale pour les enfants de la rue.
Justement, la Banque mondiale, on la connaît surtout dans les grands projets, routes, hydroélectricité, mines, transports. Et aujourd'hui, la Banque mondiale, dans la protection de l'enfance, c'est une grande première.
Tout à fait, c'est une grande première, mais la Banque mondiale quand même n'est pas justement seulement les grands projets d'infrastructure, c'est aussi les projets de ce que nous on appelle développement humain, donc c'est l'éducation et la santé, et c'est aussi la protection sociale. Donc c'est dans le contexte de la protection sociale que nous avons ce projet, qui est, si vous voulez, un peu le visage le plus humain de la Banque mondiale.
Alors comment s'exécute le projet concrètement ?
Concrètement, nous travaillons avec une unité de coordination du projet, qui est toute petite, et qui a sous-contracté des ONG qui ont été sélectionnées de manière compétitive et transparente pour travailler soit dans une composante que dans l'autre. Donc nous avons, pour la préparation du projet, tenu beaucoup de réunions avec les différents acteurs dans cette problématique, dont les bailleurs, surtout les ONG, la société civile, les organisations religieuses, les réseaux, par exemple le REGER, COPER, etc., pour identifier où le projet devrait se focaliser. Et donc nous avons identifié les zones pourvoyeuses, c'est-à-dire les zones d'origine de beaucoup de ces enfants, et des zones d'accueil, c'est-à-dire où ces enfants terminent. Donc pour vous donner un exemple, les zones pourvoyeuses, c'est Kimbanseke, et comme zone d'accueil, nous avons la Gombe. Donc il n'y a pas beaucoup d'enfants de la rue qui sont originaires de la Gombe, mais en revanche, la Gombe attire les enfants parce que c'est ici où ils peuvent penser de trouver une manière de gagner quelques sous.
Alors, vous pensez que ce projet peut avoir un impact sur combien d'enfants ?
c'est difficile de le chiffrer dans la mesure où la prévention, justement, on mesure quelque chose qui ne se passe pas. Donc on ne peut pas savoir combien d'enfants ne vont pas terminer dans la rue grâce aux activités du projet. Nous espérons évidemment le plus grand nombre possible. Donc sur les 14 000 que nous avons dans la ville, si on arrive à empêcher la descente dans la rue de la moitié de 14 000, ça serait déjà un très bon résultat.
Par rapport à ce projet, est-ce que la Banque mondiale a un vœu, un message à adresser par exemple au gouvernement, aux parents, à la société?
Beaucoup de messages d'ailleurs, parce que c'est un projet qui va beaucoup dépendre de la communication. Il faut la communication pour changer les comportements des parents irresponsables qui chassent les enfants, qui les accusent de sorcellerie, des marâtres et parâtres qui n'acceptent pas les enfants du conjoint et donc qui les maltraitent, et les enfants se voient obligés à partir pour ne pas être victimes de maltraitance. Nous avons fait des petites enquêtes pour demander aux enfants même qui sont dans la rue pourquoi ils sont dans la rue. Et justement, il y a une grande partie d'enfants qui est accusée de sorcellerie. Il y a une grande partie d'enfants qui viennent de ménages, disons, recomposés ou décomposés plutôt. Donc il s'agit d'orphelins ou il s'agit d'enfants qui ont des marâtres et des parâtres. Ce que je trouve intéressant, il y a aussi des enfants qui ont fui parce qu'ils ont eu peur de rentrer à la maison des châtiments qu'il allait subir. Donc des enfants qui ont peut-être volé quelque chose à la maison, peut-être perdu l'argent qu'on leur avait confié pour aller acheter quelque chose, et qui ont eu trop peur de rentrer chez eux. Et ça, je pense, c'est vraiment très très grave. Qu'un enfant préfère aller dans la rue par peur de ses parents, c'est pas juste.
Marisia Tovo, qu'est-ce qui vous frappe le plus quand vous rencontrez ces enfants dans la rue?
Ce qui me frappe, c'est que c'est des enfants qui ont eu des vies très très difficiles souvent, qui ont beaucoup souffert, et pourtant ils arrivent à sourire. C'est-à-dire qu'ils ont une volonté de survivre, et ils ont encore de l'espoir. Donc je pense que c'est notre responsabilité de ne pas tuer l'espoir de ces enfants.
Après le projet EDER, peut-être que la Banque mondiale pourra financer d'autres projets du genre.
Je l'espère très vivement. Et c'est là où j'ai un message pour le gouvernement. Il faut que le gouvernement y mette aussi du sien. Nous, on peut financer, mais il faut que le gouvernement fasse quelque chose aussi. D'un côté, c'est de mettre à disposition les ressources financières, mais aussi les ressources humaines, la bonne volonté. Il y a beaucoup qu'on peut faire juste en facilitant les choses, en envoyant des messages en tant que décideur, par exemple. Je souhaite que la protection sociale en général soit prise un peu plus au sérieux. C'est un pays où on est vraiment au premier stage de la protection sociale. On essaye de faire quelque chose, mais il faut faire beaucoup plus.
Madame Morizia Tovo, merci.
Merci à vous.
Près de 300 000 dollars américains, c'est le montant d'un financement du gouvernement sud-africain aux activités du programme alimentaire mondial, PAM, RDC. L'ambassadeur d'Afrique du Sud à Kinshasa, Chikiwane Joseph Machimbue, a remis le chèque de cette somme au directeur pays du PAM, Martin Olsen. Ce financement permettra d'apporter sur une période d'un mois une assistance alimentaire à 12 000 familles de déplacés, soit près de 60 000 personnes, a précisé le directeur du PAM. Nous nous félicitons de voir ainsi un pays de la région contribuer à nos efforts pour lutter contre la faim en RDC, a-t-il déclaré. Le pape François a reçu mardi 2 octobre la religieuse congolaise, la sœur Angélique Namaïka, lauréate 2013 du prix Nansen du HCR. Lors de ma rencontre avec le Saint-Père, je lui ai dit « Je suis originaire de la RDC et je porte avec moi les femmes et les enfants qui ont été victimes des atrocités commises par la LRA pour que vous puissiez les bénir ainsi que moi », a déclaré la religieuse à l'issue de l'audience. « Je connais votre cause, vous devez continuer à aider les réfugiés », lui aurait répondu le souverain pontife. Lundi dernier, lors d'une cérémonie à Genève, la sœur Angélique a reçu du HCR la médaille de distinction Nansen pour les réfugiés en reconnaissance de son travail courageux au bénéfice des rescapés de la violence et des abus perpétrés par la milice ougandaise armée de résistance du Seigneur LRA. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la MONUSCO s'implique davantage aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Les efforts sont notables et les résultats bien visibles, mais la MONUSCO dit comprendre l'impatience des populations du Nord Kivu sur la traque des groupes armés. Le rétablissement de la paix est un processus et des stratégies sont mises en œuvre pour y parvenir, affirme le commandant des forces de la MONUSCO. Le général Carlos Alberto dos Santos Cruz se dit optimiste quant à l'accomplissement de cette mission. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco. Ses propos sont traduits par le colonel Félix Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO. Suivez.
Général Carlos Alberto dos Santos Cruz, bonjour.
Bonjour.
Les commandants de brigades et des secteurs ainsi que les chefs des contingents de la MONUSCO se sont réunis pendant 2 jours ici en conférence, ici à Kinshasa. Quel est l'objet de cette conférence générale?
L'objectif de la conférence, c'est la coordination qui est nécessaire avec tous les troupes que nous avons ici au Congo, parce que c'est le pays est très grand et c'est nécessaire la coordination logistique aussi et administrative de la force militaire.
Alors, depuis le mois de juillet, vous êtes à la tête des casques bleus au sein de la MONUSCO. Comment évaluez-vous la situation sur le terrain, notamment au Nord Kivu?
The situation in Nord Kivu and the situation in the country, mainly in Nord Kivu, is one situation that...
La situation sur le terrain, quand je suis arrivé ici il y a 4 mois de cela, la situation sur le terrain, particulièrement dans le Nord Kivu, faisait que Goma, à l'époque, était sous la menace directe du M23. Donc, nous avons évalué la situation et la chose la plus importante que nous ayons fait, c'est de repousser le M23 hors d'une zone qui pouvait menacer.
The most important achievement of this period, Goma.
Qu'est-ce qu'on peut retenir en Ituri, la situation sécuritaire en Ituri, général?
In Ituri, there is one situation.
La situation au niveau de l'Ituri est causée par les combats qui opposent aujourd'hui les FRDC aux miliciens du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri, le Cobra Matata. Cette situation a provoqué une crise humanitaire. Mais aujourd'hui, la situation est un peu est meilleure parce que les humanitaires ont accès aux déplacés et nous espérons que l'armée congolaise va mettre un terme aux activités des miliciens du FRDC.
Général, maintenant parlons de la brigade d'intervention. 3 mois après le déploiement de cette brigade d'intervention Nord Kivu, quel est le bilan de ces opérations? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces objectifs sont atteints?
L'intervention brigade started the deployment.
Donc, le déploiement de la brigade a commencé au mois d'avril de cette année. Jusqu'à présent, donc, nous continuons le déploiement et nous avons commencé nos activités avec les 2/3 de nos effectifs de nos forces. Donc, aujourd'hui, la brigade d'intervention a été déployée et la meilleure preuve de son déploiement, c'est justement les résultats positifs qui ont été obtenus lors de la bataille de Kibati, lorsque nous étions en train d'appuyer l'armée congolaise pour récupérer ses positions.
Vous parlez des 2/3 des déploiements des contingents et pour la brigade. Qu'est-ce qu'il en est des troupes malawites qui ne sont pas encore au complet là-bas?
The troops from Malawi.
C'est vrai que nous avons commencé le déploiement du bataillon malawite. Actuellement, il y a l'élément précurseur de ce bataillon qui est déjà arrivé. Et d'ailleurs, justement, ce bataillon va commencer son déploiement aujourd'hui. Et la grosse partie des troupes va poursuivre le déploiement. Donc le bataillon de Malawi est en train de se déployer à partir
d'aujourd'hui.
Général, vous avez déclaré au mois de juillet que la zone de sécurité autour de Goma n'était qu'une étape et que la brigade d'intervention pourra s'étendre dans d'autres zones. Mais il se fait que Rutshuru est toujours aujourd'hui occupé par les M23. Et pourquoi? Et qu'est-ce que vous en dites?
The security zone established in around Goma.
Effectivement, donc nous avions établi cette zone de sécurité au mois de juillet pour apporter un peu plus de sécurité à la population de Goma et à la ville de Goma. Donc nous avons établi cette zone comme une première étape et nous allons poursuivre cette dynamique. Et nous sommes en train de travailler aussi avec les FRDC en étroit voie de collaboration pour apporter un peu plus de sécurité. Mais comme vous le savez aussi, il y a des pourparlers qui sont en train de se dérouler à Kampala actuellement et que nous suivons tous. La solution militaire est juste aussi une contribution, mais nous suivons de très près surtout ce qui se passe à Kampala.
Oui, général, la population du Nord Kivu critique aussi une sorte d'inefficacité de la brigade d'intervention de se déployer et de traquer les groupes armés. Comment réagissez-vous à cette accusation de la population?
How you know the brigade is still deploying?
Effectivement, vous savez très bien que nous comprenons l'état psychologique des populations du Nord Kivu qui sont aussi très fatiguées après toutes ces années de guerre. Ces populations ne veulent être contrôlées par nulle part et veulent vivre librement. Comme vous le savez aussi, au Nord Kivu, nous avons eu de 30 groupes armés, notamment des groupes Mai Mai. Donc l'état psychologique de ces populations est très compréhensible et nous le comprenons. Mais nous disons aussi qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut faire les choses de manière progressive, une après l'autre.
Général, vous n'êtes pas seul sur le terrain. Donc la brigade d'intervention n'est pas seule. Elle appuie les forces armées de la République démocratique du Congo. Et je voudrais savoir les niveaux de collaboration entre le FARDC et cette brigade d'intervention.
We need to understand that it's very important.
Vous savez que nous, ce qui nous préoccupe en premier lieu, c'est de respecter et de mettre en œuvre le mandat qui nous a été donné. Et ce mandat nous fait obligation de soutenir le gouvernement congolais dans leurs activités. Et comme vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo font partie de la composante de l'État et du gouvernement congolais. Donc nous leur apportons tout notre soutien, aussi bien par la coordination de nos activités. Nous leur apportons aussi notre soutien au plan logistique. Nous leur apportons aussi notre soutien au plan des opérations conjointes. Tout ceci pour permettre à l'armée congolaise de pouvoir remplir sa mission régalienne qui est de défense de l'intégrité territoriale et des populations.
Vous dites que vous œuvrez dans le cadre du mandat qui vous a été confié par la résolution 2098 des Nations Unies. Et ça, c'est une bonne chose. Mais alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, notamment au Nord Kivu, où la brigade d'intervention est opérationnelle? Et quelles sont les solutions que vous apportez pour contourner ces difficultés-là?
Yeah, we have many problems.
Oui, nous avons effectivement beaucoup de problèmes ici au Congo. Nous commencerons d'abord par le premier problème qui est la dimension géographique du pays, du Congo. Comme vous le savez, c'est l'un des plus grands pays au monde. Mais aussi, nous faisons face à d'autres difficultés, notamment l'impraticabilité des routes, surtout en saison des pluies ici au Congo. Et nous avons aussi beaucoup de groupes armés ici au Congo, donc qui profitent de l'espace vacant laissé par l'État pour s'installer et mener des activités criminelles. Donc pour tout ceci, nous avons besoin de définir des stratégies qui prennent en compte une approche progressive. On y va pas à pas. Et évidemment, le Nord Kivu fait partie de nos priorités, mais aussi nous avons le Katanga, etc. Donc, mais nous commençons par le Nord Kivu, comme je le dis, il faut y aller pas à pas.
Général, une question qui me vient à l'esprit, et à quand les drones dont on a parlé, parce que ça fait partie aussi de vos stratégies.
The first group of contractors came here.
Le premier groupe des contractants, ceux qui ont soumis leur demande pour pouvoir donner des services, c'était là. Et d'ici, normalement, les mois à venir, nous allons commencer à mener nos opérations avec les drones ou les engins sans pilote.
Général, une toute dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste quant au rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo?
I'm optimist that we are going to use all the force, all the energy we have to bring peace to the population.
Général Carlos Alberto dos Santos, et je vous remercie.
Merci beaucoup pour l'opportunité.
Et notre nouvelle en province à présent, début vendredi dernier à Kinshasa, de l'opération de dénombrement des ménages devant bénéficier des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Sur terrain, 6541 enquêteurs devront recueillir des informations sur les ménages et leur remettre des jetons qui leur donneront accès aux moustiquaires lors de la campagne de distribution des moustiquaires qui interviendra d'ici à la fin de l'année. Cette opération se fait avec l'appui du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Son exécution est confiée à l'Association de santé familiale, ASF. L'administrateur délégué de cette organisation explique son déroulement au micro de Jocelyne Moussa Opondé.
L'objectif, c'est qu'à la fin de la distribution, chaque ménage reçoive une moustiquaire. Pour y arriver, une des étapes, c'est le dénombrement, qui consiste de façon tout à fait simplifiée à faire le décompte de ménage, ce qui signifie passer ménage par ménage, avoir des informations sur le ménage, c'est-à-dire la localisation du ménage et la taille du ménage. À l'issue de ces décomptes, le relais communautaire va remettre un jeton. Le jeton qui confirme que le ménage a été enquêté et les jetons qui confirment aussi le nombre de personnes qui vivent sous un toit. Parce que de ces nombres déterminera le nombre de moustiquaires à remettre à chaque ménage.
Magazine des Nations Unies, Portrait d'usine.
Je m'appelle Kingoudi Grégoire, je suis driver clerc au sein de l'unité dispatch de transport Monusco. Je suis marié à Madame Landou Marie, père de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. L'aîné a 29 ans et la dernière fille, la cadette, elle a 13 ans. Je commence toujours ma journée très très tôt le matin, 6h du matin. Je suis prêt, j'inspecte mon véhicule, niveau carburant, niveau huile de pneu. Et ensuite, je prends rapidement mon chiffre. En accord avec mon dispatcher, je suis attaché auprès de Alcatel. Je suis là avec le INPOL et gendarme de la mission. Donc, ça se passe toujours en coordination avec mon dispatcher de service. Je suis dans la mission depuis le 2 février 2001. Donc, j'ai déjà 10 ans d'expérience dans cette mission. Et avant d'être au sein de la Monusco, j'étais agent au sein du groupe Chani Metal. J'ai eu à travailler au sein du service après-vente Caterpillar. Et évidemment, mon cursus scolaire, j'étais l'école primaire, c'est Saint-Georges à Kitambo, chez les frères des écoles chrétiennes. De 2 ans du cycle d'orientation, toujours chez les frères des écoles chrétiennes, à la montagne, qu'on appelait dans les temps Ngomba. Et ensuite, les études humanitaires commerciales, toujours chez les frères des écoles chrétiennes, dans la commune de Saint-Jean, qu'on appelle actuellement Dingwala. Et ensuite, après avoir fait mon travail sur Chani Metal, 26 ans de bon et de au service, je l'ai quitté l'entreprise en l'an 1999. Engagé au sein de la Monusco en 2001, j'ai maintenant presque 12 ans de service au sein de cette entreprise, la Monusco, plus précisément au département transport, section dispatch. Pour le loisir, j'aime bien le dimanche après ma prière, faire la marche. J'aime bien la marche à pied, ça va avec l'âge de 60 ans. Il faut bien s'entretenir, être en forme, surtout avec notre emploi de chauffeur. Il faut bien être en forme pour ne pas être un peu souvent dépassé ou bien dépaysé. Pour les perspectives d'avenir pour l'agence, je pense que s'il plaira au bon Dieu, je vais essayer de continuer toujours à servir mes semblables. Surtout, je compte plus m'engager dans l'environnement, la nature, parce que j'adore la nature. Et quand je marche le dimanche en faisant mon sport loisir, je me sens vraiment de nouveau renaître pour commencer à attaquer la semaine prochaine avec force. Écoutez, pour la musique, écoutez, la chanson religieuse, ça me va trop bien. Surtout la musique catholique religieuse. Et les messes latines, j'adore les messes latines. J'ai des CD chez moi à la maison le dimanche si j'ai rien à faire. Et en tout cas, j'écoute bien la musique religieuse latine. Et surtout le bon vieux temps de Franco et les anciens, le vieux quoi. Ça, c'est très bonne musique. Merci beaucoup.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Manoj Bounoubaï, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la MONUSCO. Deux auditeurs du magazine des Nations Unies ont posé chacune une question à la MONUSCO. Alors le premier auditeur, c'est Jean Nseka Tigana de Goma, au Nord Kivu. Il voudrait savoir pourquoi la MONUSCO ne construit pas en RDC et ne fait que monter des bâches. Est-ce une politique de Nations Unies avec toutes ses missions de paix dans d'autres pays du monde, ou tout simplement la MONUSCO n'a-t-elle pas envie de rester longtemps en RDC? Le deuxième auditeur est lui de Kalemi au Katanga, il s'appelle Alain Gongo et Bombo. Il se demande quand est-ce que la MONUSCO pensera aussi au Katanga. Monsieur le porte-parole, que répondez-vous à ces deux auditeurs du magazine des Nations Unies?
Commençons par la première question. Ce n'est pas vrai que la MONUSCO ne fait que construire des choses en bâche. D'ailleurs, je pense qu'il y a une amalgame un peu dans la tête de notre auditeur qui confond un peu les choses. La MONUSCO, parce que c'est une mission de paix, est ici temporairement. Par conséquent, elle ne construit pas dans la durée. Elle loue parce que le gouvernement ne met pas à sa disposition les infrastructures nécessaires en termes de bâtiments dans lesquels elle peut travailler. Par conséquent, elle loue des bâtiments où elle installe ses infrastructures, elle loue des terrains où elle installe ses infrastructures. Donc, c'est parce que la MONUSCO n'est pas ici dans la durée qu'elle ne construit pas. En ce qui concerne le Katanga, quand est-ce que la MONUSCO va s'intéresser au Katanga? Mais la MONUSCO s'est toujours intéressée au Katanga. D'ailleurs, nous avons un bureau à Lubumbashi, nous avons un second bureau à Kalemi, nous avons des militaires qui sont installés dans la province du Katanga, nous travaillons et nous soutenons les FARDC dans ses activités dans la province du Katanga. Donc, nous sommes présents dans la province du Katanga.
Merci Manoj Mounoubaï. J'espère que les deux auditeurs sont satisfaits de ces réponses.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Plusieurs journées mondiales lors de la semaine qui débute, en voici quelques-unes. Le 7 octobre, journée mondiale d'action pour le travail décent. Le 8 octobre, journée mondiale pour la vue. Vous savez, la vue, c'est la vie, dit-on. 9 octobre, journée mondiale de la poste. Et le 10 octobre, deux journées mondiales, journée mondiale de la santé mentale et journée mondiale contre la peine de mort. Nous mettons un point final à ce magazine, en tout cas pour cette semaine. C'était un réel plaisir d'être avec vous. Moi, Mila Kimbini qui vous l'a présenté, Jean-Claude Siala du côté de la régie, Honoré Missenga au reportage, Jean-Pierre Elali Coco à la coordination et Nicole Ngaka à la supervision. Tous, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Vous pouvez retrouver le magazine sur www.radiokapi.com. Trois manières de nous faire parvenir vos suggestions, vos questions ou vos remarques. Appelez-nous au 082 30 76 630. 082 30 76 630. Écrivez-nous aussi à notre adresse magun@radiokapi.net ou postez un commentaire sous l'émission sur le site que vous connaissez tous, radiokapi.net. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée dominicale à tous.